avez demandé les infos ?
Oui, oui !
T'énerve pas. Sois cool, mon grand.
Magnifique. M-A-G-N-I-F-I-Q-E.
Bonjour, c'est Laurent, je suis ravi de vous retrouver. Vous le savez, le week-end, le bruit vous éloigne du tourbillon de l'actu pour prendre le temps de se poser un peu. Aujourd'hui, on est plutôt d'humeur peace and love, celle qui peuplait les champs de Bethel il y a tout juste 50 ans, celle de cette jeunesse américaine en quête de paix et d'amour qui se donnait rendez-vous pendant 3 jours au festival de musique de Woodstock à 2 heures de New York. Le plaisir d'être ensemble et d'entendre les musiciens vedettes de l'époque. Alors installez-vous confortablement, ressortez lunettes rondes et couronnes de fleurs et laissez-vous bercer par la voix de Jean-François Pérez, que nous avons joint sur son lieu de vacances et qui nous fait le plaisir de nous raconter Woodstock et quelques-unes de ses figures mythiques. Car oui, le chef du service des sports d'Europe 1 est également un spécialiste de musique, on dit même qu'il eut son propre groupe de rock. L'histoire ne dit pas si Jean-François Pérez portait les cheveux longs à l'époque, mais une chose est sûre, son récit est passionnant et sans fausse note.
You say it's the moon.
Richie Havens, quelqu'un qui n'est pas extrêmement connu à l'époque, et il est invité comme d'autres. Et le problème du festival de Woodstock des premières heures, c'est qu'il y a tellement de monde, il y a des bouchons gigantesques dans toute la région, et les artistes ne peuvent pas arriver. À la dernière minute, on décide de convoyer par hélicoptère les premiers qui sont arrivés sur place. La plupart d'entre eux ne souhaitent pas débuter parce qu'ils sont absolument pétrifiés à l'idée de jouer devant autant de monde. Ils sont pas du tout habitués. Et les producteurs du festival sont persuadés que Richie Havens est la bonne personnalité pour démarrer, parce qu'il est à la fois très calme, un grand type, il est noir de peau, il est assez symbolique, en même temps il a une espèce de puissance vocale et de jeu de guitare qui force un peu le respect. Donc il le force quasiment à ouvrir le festival. Lui est persuadé qu'il va se faire lyncher par le public parce que c'est un artiste qui est pas encore très reconnu, et puis il y va. Et là, comme les autres artistes n'arrivent pas, il continue à jouer. À chaque fois, on le repousse sur scène en disant non, il faut que tu restes, ils sont pas encore arrivés. Et l'ultime rappel, il reprend un titre de son répertoire, qui est une reprise d'un vieux blues, et puis se met à crier Freedom, Freedom.
Freedom, freedom, freedom.
Et c'est un triomphe, et derrière, ses disques auront tellement de succès qu'il pourra fonder sa propre maison de disques, qui servira à lancer de jeunes artistes, et puis lui deviendra une sorte de conscience à la fois morale et écologiste aussi. C'est quelqu'un qui était très peu connu avant Woodstock, qui est devenu une vraie légende du rock et de la musique contemporaine en général, après le festival, grâce à ça.
The copper bosses killed you.
John Bez, elle, était une sorte de vétéran quand même, hein, du circuit, parce que ça faisait quasiment 10 ans qu'elle enregistrait des disques. Il y a eu sa romance avec Bob Dylan. C'est elle qui a lancé Bob Dylan sur la grande scène, on va dire. Et puis, elle est mariée à un contestataire qui s'appelait David Harris et qui est parti en prison un peu avant Woodstock parce que le couple était très engagé contre la guerre au Vietnam. Et John Bez arrive à Woodstock enceinte de David Harris et vraiment nimbé d'une auréole, quoi. C'est la conscience d'une génération. On réalise ce soir-là un concert alors qu'elle est enceinte de 6 mois quand même et qu'on l'a fait jouer à plus d'une heure du matin. Elle réalise un concert magique.
We shall live.
Derrière, elle continuera inlassablement. Elle vient de prendre sa retraite. Elle dit qu'elle n'a plus assez de voix à 80 ans pour continuer à chanter comme elle le faisait. Et ça a été une figure qui a été très populaire, non seulement aux États-Unis et à l'international en général, et qui restera comme une icône, clairement, de cette époque-là et de ses idéaux.
My house is dark and my mother cold to hang around.
Santana, le fils d'un musicien de mariachi, il arrive aux États-Unis pour tenter sa chance et il ne parle pas un mot d'anglais. Et en quelques années, en fait, c'est grâce à la musique qu'il va se faire un nom à San Francisco tout d'abord. Et son premier album n'est même pas sorti au moment du festival. Et en fait, c'est juste à la fois sur sa réputation sur scène. Son manager, qui était Bill Graham, avait dit il faut absolument que vous preniez Santana avec son groupe parce que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, il se retrouve dans l'affiche. Santana, donc à la guitare, est extrêmement inspiré ce jour-là. Il y a ce fameux morceau qui s'appelle Soul Sacrifice qui va un petit peu personnifier les 3 jours. Et Santana, grâce à Woodstock, va devenir un artiste très, à la fois très connu, très, très respecté également. Il va avoir une grande liberté artistique pour fonder une espèce de genre qu'on appelle pas encore la world music, mais qui mélange le rock, la pop, les influences latines, le jazz, la musique africaine. Son paroxysme commercial, ça sera au milieu des années 70, un morceau qui s'appelle Europa. Santana continue encore aujourd'hui à se produire dans pas mal de festivals. Il dit fréquemment que l'idéal qui était défendu à l'époque est parfaitement d'actualité, hélas, encore aujourd'hui.
Ladies and gentlemen, Mr. Joe Cocker, let's go for Sunday!
À la base, Joe Cocker, c'est un vrai pur amateur et chanteur de soul qui a été traumatisé un soir quand il était gamin et qu'il a découvert Ray Charles dans son poste de radio. Et il s'est dit, je vais essayer de devenir comme lui. À Sheffield, qui est une vieille cité industrielle du centre nord de l'Angleterre, il s'est mis à écumer les clubs, à rôder sa voix. Il a sorti un premier album en 1968, un an avant Woodstock, qui contenait une reprise des Beatles. Les Beatles lui avaient prêté un morceau, With a Little Help from My Friend. Ils étaient un peu curieux de savoir ce que ça allait donner. Et c'est le fameux morceau que Joe Cocker joue à Woodstock et qui est un triomphe parce qu'il transforme totalement la petite balade sympa des Beatles en un hymne soul. Et McCartney, à la mort de Joe Cocker, a dit on le remerciera jamais assez pour lui avoir donné une autre dimension. Joe Cocker explose en quelque sorte à Woodstock grâce notamment à ce titre. Et puis derrière, les contrats mirifiques s'enchaînent. Et il se retrouve quasiment contraint à faire une grande tournée aux États-Unis. C'est un petit gamin de la classe ouvrière qui se retrouve plongé sous la lumière des projecteurs. Et il commence à déprimer, commence à tomber dans l'alcool et dans la drogue. Alors il va réussir à faire quelques disques encore vraiment de très bonne tenue. Après, c'est le trou noir dans les années fin des années 70 et années 80. Et puis c'est Hollywood qui va le sauver avec ses fameuses bandes originales de films. Puis là, il connaît une deuxième vie et il devient une espèce de légende grand public jusqu'à sa mort finalement. Alors, Jimi Hendrix, c'était un jeune garçon de Seattle, issu d'une famille problématique. Sa mère est à moitié Cherokee. Elle est alcoolique. Elle s'intéressait très peu à son fils. Son père était plutôt du genre violent. Et Hendrix, très vite, très gamin, s'est retrouvé dans la musique. Il a appris à jouer toutes sortes d'instruments. Pour éviter la prison, il est parti faire ses obligations militaires. Ça lui a permis d'éviter ça parce qu'il devenait quand même un petit peu délinquant, le garçon, ayant arrêté l'école et essayant de vivre chichement de sa musique. Une fois son service terminé, il s'est mis à jouer de la guitare avec des grandes stars de l'époque, dont Little Richard ou Sam Cooke, le chanteur de soul. Le seul problème, c'est qu'il se prenait déjà apparemment pour une vedette sur scène. Et à chaque fois, les groupes ou les artistes lui disaient, écoute, ça suffit, si tu veux devenir une vedette, deviens-le par toi-même. Et il se retrouve comme beaucoup d'autres à l'époque à New York, et c'est là qu'il est repéré par le bassiste du groupe The Animals, et il l'amène en Angleterre. Et Hendrix dit, ok, je veux juste rencontrer Eric Clapton, qui est mon idole, et je viens et j'enregistre. Et ça commence en fait fin 66, et il meurt 4 ans après, et en 4 ans, il va avoir le temps d'enregistrer plusieurs albums. Jimi Hendrix joue à Woodstock auréolé d'une espèce d'aura, de demi-dieu de la guitare. Parfois, le soir, il mettait le feu à sa guitare pour dire qu'il l'avait sacrifiée parce qu'il avait tiré toutes les notes possibles. Et c'est lui qui a tenu aussi à fermer le festival, même s'il n'y avait plus grand monde à ce moment-là. Et il s'est mis à improviser, même ses musiciens n'étaient pas au courant, Star Spangled Banner, à sa manière, en refaisant avec sa guitare les bruits de l'armée américaine au Vietnam. Le problème, c'est qu'Hendrix était quelqu'un de finalement assez malheureux. On l'a retrouvé mort dans sa chambre à Londres à la fin de l'année 70, un an à peine après le festival.
Merci d'avoir demandé ce brief. Je vous souhaite un week-end aussi zen que possible, surtout si vous devez prendre la route. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi dès 8h. On reprendra le cours normal de l'actu.